RRLFC, vous écoutez la radio du lycée français au Caire.
Justement, on va plutôt parler maintenant de votre travail. Vous avez parlé, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez effectué plusieurs fouilles. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire quelles sont les règles à respecter quand on travaille, quand on effectue des fouilles, quand on travaille sur un terrain?
D'abord, les archéologues, les égyptologues, nous sont très simples. Ça veut dire qu'on n'utilise pas des matériaux ou des appareils très compliqués, modernes. C'est toujours très simple avec les mains. On travaille avec les mains. Ça veut dire que tout y marche avec nous. Les mains, les yeux, les oreilles, les pieds même. Il faut bien marcher. On doit sentir très bien où est-ce qu'on va marcher et qu'est-ce qu'il y a en dessous de nos pieds. Et avec les yeux aussi, il faut regarder le changement de la montagne, de la terre, de sable, de poussière, tout ce qu'il
Donc
y a.
Oui, c'est d'abord un travail d'observation.
Alors. Oui. D'abord, encore, il faut être bien précieux pour savoir quel endroit que vous allez travailler et après vous allez faire des secteurs sur l'endroit, surface,
oui.
Avec des fils, des carrés.
Pour bien délimiter.
Pour bien limiter le site que vous allez travailler. Oui. Et chaque carré, vous allez faire, par exemple, un groupe des ouvriers. Et le groupe même, il faut classer le groupe des ouvriers. Ça veut dire qu'il y a un qui a beaucoup d'expérience, il a des bons yeux pour voir qu'est-ce qu'il va. Il a des touches douces.
Pour ne pas abîmer éventuellement les objets qu'il trouverait.
Ça, c'est qu'il doit être le premier.
Oui.
C'est parce que c'est lui qui est le premier.
Oui.
C'est parce que c'est lui qui il va le premier, la première personne qu'il va
rencontrer
le terrain physiquement. Et après de lui, il y a d'autres qu'il doit examiner le sable ou le poussière et il va emmener quelque part. Et il faut examiner encore le sable s'il y a, il reste quelque chose qu'il n'est pas vu. Et toujours l'égyptologue ou l'archéologue, il doit être à la place. Ça veut dire, chaque carré, il faut faire un groupe pour travailler. Et toujours, il faut enregistrer avec les cahiers de journaux, tous les notes et aussi les mesures, faire les photos et les dessins. Parce que jamais on sait qu'est-ce qu'on va trouver après. Et avec, c'est très important pour les historiens et pour les archéologues, qu'est-ce qu'on a trouvé après tous les data et tous les données qu'on a écrites. Après, c'est sûr, elle va donner des résultats très précieux. Et comme ça, il faut faire le travail très
minutieusement. Oui, plus le travail aurait été minutieux, plus il peut finalement servir après aux historiens.
On fait des rapports, bien sûr, et des articles, et après, il y a la publication. La publication, il y a toujours le scolaire, les chercheurs, les spécialistes de chaque chose qu'on a trouvée. Parce que peut-être je travaille dans un endroit, mais je ne sais pas, je suis spécialiste de l'époque pharaonique, par exemple, et je suis très spécialiste de la 18e dynastie. Mais ce n'est pas toujours je vais trouver tout ce que je veux. Peut-être je vais trouver quelque chose de l'époque islamique, ou de l'époque copte, ou de l'époque gréco-romaine, ou n'importe quelle époque. Je ne sais pas. Mais honnêtement, je dois être très honnête pour donner tous les données et tous les détails que j'ai trouvés. Honnêtement, et publié pour tous les chercheurs et spécialistes de chaque époque.
Oui, pour quelqu'un qui sera plus spécialisé dans cette partie.
Oui.
Et justement, la plupart des fouilles en Égypte ont commencé à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on peut fouiller dans des sites qui ont déjà été fouillés?
Ah non, ça, une autre chose, le début du 19e siècle, ça commençait déjà pour faire une règle pour les fouilles et pour contrôler les sites des antiquités, pour protéger les monuments, l'héritage mondial même. Il y a maintenant des protocoles avec l'UNESCO, avec tout le monde, ils ont signé le protocole pour respecter les règles de fouilles et la restauration et protéger l'héritage. C'est pas les mêmes époques qu'ils ont cherché les trésors à l'époque du 18e siècle ou du 19e siècle, si on peut dire ça. Mais
oui, l'objectif n'était pas le même.
C'est pas la même du tout maintenant.
Il n'y avait pas de rigueur scientifique
Il y a maintenant les lois aussi, il y a de contrôle pour ça, il y a de protocoles mondiaux aussi. Il y a des règles et des rôles respectés. On ne peut pas fouiller n'importe qui peut fouiller. Non. Il doit être archéologue, égyptologue, spécialiste. Et il y a aussi des sociétés scientifiques responsables pour lui. C'est pas si, même s'il est égyptologue, même s'il est bien connu égyptologue, archéologue, il y a aussi une société responsable de lui. C'est aussi pour qui il respecte les règles.
Vous voulez dire par société, c'est l'institution à laquelle il appartient?
Oui, par exemple comme l'IFAO. L'Institut français et le CNRS.
Oui, la responsabilité n'est pas uniquement individuelle, donc vous voulez dire.
Oui, c'est ça.
Elle est collective, elle est celle de l'institution dans laquelle il travaille.
Les sociétés scientifiques, l'ARCE, par exemple, ici, par exemple, quand on dit ARCE, American Research Center, il y a aussi l'Institut allemand. Il y a des sociétés scientifiques qui sont responsables pour aussi protéger l'héritage et pour. C'est pas n'importe qui doit fouiller.
Donc l'esprit a complètement changé, vous voulez dire, par rapport au 18e, 19e siècle.
C'est déjà avec constitué l'organisation des antiquités de l'époque de Mariette Bacha. Et Mariette Bacha, elle était d'origine française, si on veut. C'est déjà loin. Et après, il y a des protocoles et des règles, des rôles, de lois.
Oui. Des lois qui protègent finalement le patrimoine.
Oui. C'est même, s'il est connu, il doit être un membre d'une société responsable.
Alors maintenant, si on revient aux fouilles à proprement parler, est-ce que vous pouvez nous dire quelle découverte vous avez faite au cours de votre carrière?
Oh là là, il y a beaucoup de découvertes, mais on ne peut pas.
Au moins en citer quelques-uns, puisque vous avez apporté des photographies avec vous, et en particulier, vous avez apporté, et donc ces photographies seront mises sur le site de la radio du lycée, vous avez apporté la photographie d'une statue gréco-romaine que vous avez trouvée.
Oui,
est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous la décrire et nous la présenter?
C'est cette histoire de cette statue, vraiment, elle est aujourd'hui exposée dans le musée de la bibliothèque d'Alexandrie. Cette statue représente un petit enfant couché sur un lit en marbre. C'est très bon. Et après, quand j'ai fouillé un peu loin de Gorna, 21 kilomètres au nord, c'est toujours la rive gauche de Luxor, de certaines raisons, parce qu'ils ont commencé de fouiller là-bas pour faire une école. Et je suis arrivé, j'ai arrêté leur travail et après j'ai commencé pour faire le fruit. Et j'ai trouvé, comme on dit, un terme, ou un terme,
oui, des termes, des bains.
Un terme des bains romanes, avec des canalisations en poterie, avec des tuyaux, de l'eau. Et il y a des pièces pour chauffer l'eau. Et oui, des pièces d'autres chambres pour se reposer. Et je trouvais cette statue dans une partie, quand j'ai fouillé là-bas. Et c'est très intéressant. Et ça, c'est, elle était 1988. Et aujourd'hui, cette statue est exposée au musée de la bibliothèque d'Alexandrie. Ça, c'est une découverte déjà quand j'étais jeune, mais c'est très intéressant. Il y a une autre découverte qui était faite aussi. C'est toujours, par exemple, que j'ai travaillé dans une tombe qui était découverte déjà de Victor Leray. Victor Leray, 1898-1899. Et après, même Howard Carter, qui est venu travailler dans cette tombe à la Vallée des Rois, toujours à la rive gauche de l'Auxerre, même qu'ils ont, il y a beaucoup de 100 ans après, j'ai commencé de refaire le travail dans cette tombe à la Vallée des Rois et j'ai trouvé beaucoup de choses que vraiment ils n'ont pas vues, bien sûr.
Et est-ce que vous pouvez dire justement pourquoi ils ne les avaient pas vues?
Ça change la vie. D'abord, c'est une époque où ils cherchaient les belles objets, les trésors.
Oui.
Il n'y a pas de tombe parce qu'il y avait à l'époque toujours, ils veulent découvrir beaucoup de choses, beaucoup des objets, et ils laissent le travail, s'intéressent pour eux quand ils ont entré. Aujourd'hui, on cherche les scientifiques.
Vous voulez dire, on passe à autre chose,
oui,
hein, parce qu'on ne trouve pas tout de suite quelque chose qui est intéressant.
Oui, et aussi, il n'y a pas les lumières. Aujourd'hui, c'est très. Il y a beaucoup de choses modernes qui aident. Même nous, les égyptologues, les archéologues, aiment bien d'utiliser les choses très simples. Mais quand même, l'ordinateur, les lumières, les appareils de photo, qu'il y a beaucoup de progrès avec toutes les technologies, ça aide beaucoup notre travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière, il y a de l'ordinateur.
Donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. On peut finalement fouiller un endroit qui a déjà été fouillé et trouver de nouvelles choses.
Bien sûr. Mmh. Et des résultats très, très, très importants. Dans cette tombe, quand j'ai travaillé, il était proposé d'être la tombe de Thoutmôsis II à la Vallée des Rois. Et moi, avec les fouilles et toutes les traces que j'ai trouvées, examinées bien, on a trouvé un autre résultat avec les fouilles. Et j'ai dit pour la première fois, c'est pas comme ils ont dit les égyptologues au début, que la première tombe à la Vallée des Rois, la société royale, c'est la tombe de Thoutmôsis Ier, le père d'Hatshepsut. Moi, j'ai, après tout ce travail dans cette tombe, j'ai dit non et j'ai trouvé le résultat que c'est la première tombe de la Vallée des Rois construite par Hatshepsut, la reine Pharaon. Et ça, c'est nouveau. On ne sait pas. Et j'ai donné tous les, bien sûr, les preuves,
raisons.
Les raisons.
Oui.
Et ça, c'est tout. 1999.
Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, donc, qui n'avait pas été trouvé dans cette tombe?
Ce n'est pas seulement les trésors,
non,
les
non.
objets. Il y a même que les choses qu'ils ont laissées, c'est des petites choses, des morceaux de momie, des petits morceaux en bois. Mais sérieusement, on a fait les analyses pour ça. Et la forme de la tombe même. Et le résultat, c'est un peu plus compliqué pour expliquer que la forme de la chambre, la chambre funéraire, qu'il y a les sarcophages, la forme même, ça donne une indication différente Il faut voir, suivre tous les data et tous les données de la vallée de Roi pour décider exactement. Des piliers trouvés dans la chambre, c'est différent qu'on se trouve un pilier.
Oui.
Aussi, il y a toutes les indications, il faut compter.
Tous les éléments
et après,
comptent.
Pour avoir toutes les données.
Ouais.
Et après, enfin, j'ai donné le bref que cette tombe, elle était faite par Thoutmôsis III, pour son père, Thoutmôsis II, mais Hatshepsut, c'est elle qui a commencé pour faire sa tombe, le numéro 20 à la vallée de Roi. Ça, c'est. Je ne vais pas, je ne vais pas aller très loin.
Un peu trop précis, mais en tous les cas, oui, c'est intéressant parce que ça permet de reconsidérer.
Oui.
De trouver des nouvelles informations
et travailler,
des nouvelles analyses d'une période qu'on pensait peut-être déjà connue.
Ouais.
Donc on peut finalement découvrir de nouvelles choses.
Ouais.